Les phares se racontent ce midi sur France Bleu Océan avec mon invité Martina Serra, professeur émérite de l'Université de Nantes, spécialiste d'histoire maritime, qui a fait un très très bel article sur les phares dans la région, dans la dernière revue 303. Rebonjour Martina Serra.
Rebonjour.
Et vraiment, merci d'être là parce que c'est une passion, les phares, que j'ai aussi quelque part. Quand j'ai vu ça dans la revue 303, j'ai dit, il faut que j'invite absolument Martina Serra. Comment vous est venue, vous, cette passion pour les phares, dites-moi?
Un peu par hasard, parce que je suis parisienne d'origine et a priori, il n'y a pas de phare à Paris. Il y a un petit modèle quelque part du côté du Palais de Chaillot.
C'est en travaillant
sur le monde maritime que j'ai évidemment abordé tout ce qui concerne les dangers de la mer. C'est un milieu hostile s'il en est. Et évidemment, les phares sont venus dans le paysage immédiatement. Et en les regardant, les observant, en ayant aussi l'occasion d'en visiter certains, et de travailler sur le très beau phare de Cordouan, eh bien évidemment la passion est venue, et puis c'est tout à fait naturel parce que ce sont des édifices absolument splendides.
Splendides. Et le phare de Cordouan, parce qu'on a dit tout à l'heure, en préambule de cette émission, que tous les phares étaient automatisés là aujourd'hui, alors sauf peut-être celui de Cordouan justement.
Tous les phares sont automatisés, mais ils sont également, il y en a un seul qui a encore un gardien, c'est le phare de Cordouan. Mais sinon, Cordouan est automatisé comme tous les autres.
Et c'est vrai qu'il reste aujourd'hui le symbole d'une certaine puissance, hein, puisque tout à l'heure, on est allé voir justement une photographie que tout le monde a vue, une très belle photo de Plisson sur le phare de la Jument en pleine tempête avec le gardien de phare qui est là, qui sort, qui est à la porte. Et là, il y a une énorme vague d'une trentaine de mètres de haut qui enveloppe ce phare. C'est absolument magnifique.
C'est magnifique. Le gardien, il a dû rentrer assez vite hein, après la photo.
Je pense.
Parce que... Il risquait d'être emporté par le retour de vagues. Mais c'est vrai qu'il y a une magie aussi du gardien de phare. Alors, il y en a encore qui sont encore vivants, hein, puisque le fait d'être automatisé n'a pas évidemment tué le gardien. Mais ils rapportent énormément de choses. Ils font œuvre de mémoire. Ils déposent leurs objets aussi. Enfin, il y a une vraie collecte de leurs souvenirs qui est effectuée région par région. Donc, on ne perdra pas ce patrimoine là et cette mémoire là.
Oui.
Mais c'est vrai que pour certains phares, relever le gardien était un défi. Je regardais encore tout à l'heure combien de temps il fallait pour faire la relève du gardien par bateau, par canot. Certains c'était par hélicoptère. L'hélitreuillage, ça peut pas se faire par mauvais temps. Donc il y a des gardiens qui restent sur place en attendant que le copain vienne remplacer une fois que la mer est à peu près fréquentable.
On revient sur le phare des barges au Sable d'Olonne au large de la Chaume. Il avait sa plateforme pour accueillir les hélicoptères lui à un moment donné.
Il y avait une plateforme. Il y en avait un aussi en Bretagne, Kéréon, qui avait et c'est le dernier phare qui est resté avec un gardiennage, Kéréon. C'était par hélicoptère.
Barges, par contre, ils ont enlevé la plateforme. À un moment donné, c'était dangereux.
Ça doit être quand même assez fragile compte tenu des coups de vent qu'il peut y avoir. Je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été retiré.
Alors, c'est vrai que j'ai bien lu votre article. C'est un peu dommage, finalement, que ces gardiens aient disparu parce que ils entretenaient aussi les phares. Ils étaient là pour ça.
Oui, ils étaient là pour surveiller évidemment l'optique et la fonction du phare qui est d'éclairer par intervalles réguliers pour que les marins se repèrent. Mais étant sur place, évidemment, ils avaient un rôle d'entretien naturel. Et je ne parle pas seulement du ménage, évidemment, intérieur, mais ils écoutaient le phare. C'est-à-dire que le phare, c'est presque un être vivant. Hein, il réagit à l'état de la mer qui est autour de lui. Et lorsqu'il y a des tempêtes, eh bien, il peut être ébranlé, il peut subir des pathologies. Et les gardiens étaient là en surveillance. Ils pouvaient donc ensuite communiquer les travaux à faire. Il est arrivé que à l'intérieur des vitres explosent. Enfin, lors des grandes tempêtes.
Quel phare avait fissuré ? On en parlait tout à l'heure.
Alors je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus de mémoire. Je vous ai donné cet exemple-là de mémoire, mais je me rappelle plus. C'est un phare breton, mais je me rappelle plus duquel il s'agit. Mais le gardien a été très vigilant. Et après la tempête passée, il a inspecté son phare. Et il a signalé donc au service des phares et balises le danger, la fragilité qui était liée à cette tempête.
D'accord.
À cette tempête.
C'est vrai qu'en préambule de votre sujet, dans la revue 303, on a une première photo, c'était celle du phare des barges, on en parlait. Il y a une seconde photo également, c'est le phare de la Grande Jetée, toujours à l'entrée des sables. On dirait que vos phares préférés, c'est celle-ci, la deuxième photo.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Alors, c'est pas vraiment un phare, celui-là. C'est un feu.
Ah, c'est un feu.
Oui.
D'accord.
Un phare, ça a des particularités, bien que ça se décline avec quelques qualités qu'il doit regrouper.
Alors, ce sont lesquelles, justement?
Alors, c'est une grande hauteur, plus de 20 mètres au-dessus du niveau de l'eau.
D'accord.
Alors, ça peut être sur un rocher, évidemment, et pas forcément, ou sur une falaise. Il doit avoir une certaine luminosité, c'est-à-dire qu'il doit être puissant. Et puis, il doit correspondre à une des deux grandes fonctions des phares, soit être un phare dit de grand atterrissage, soit un phare de jalonnement. Donc, le phare de grand atterrissage, c'est très simple. Quand on vient de la mer, c'est le truc qu'on voit briller et qui vous indique que la côte n'est pas loin. Donc,
d'accord,
ça, c'est vraiment un repère. Et ensuite, le phare de jalonnement, c'est celui qui, associé à d'autres instruments de balisage, vous indique l'entrée d'un estuaire, d'un chenal, d'un port, etc.
C'est donc le cas de ce feu-là, voilà, de la Grande Jetée au sable.
Voilà. Il correspond, en fait, il fait partie d'un ensemble, ce feu. C'est, quand on naviguait avec les phares, parce que maintenant, on navigue en e-navigation, hein. On est avec le GPS.
C'est vrai.
Enfin, sauf sur les petits bateaux, mais, hein, voilà. Mais on procède donc en observant l'alignement d'un certain nombre de signaux, des phares, des feux, des balises, et on a donc la route que l'on peut suivre pour rentrer dans le port, dans l'estuaire.
Bon.
Voilà.
Bon, on va reparler de tout ça dans quelques instants. On va écouter Chris Isaac, là, sur France Bleu Océan, et Martina Serra, vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi. Vous nous donnerez votre coup de cœur, je crois que c'est le phare de l'Armandèche, toujours au sable.
Oui.
Votre véritable coup de cœur, ça sera dans un instant, à tout de suite. Isaac à l'instant sur France Bleu, Loire-Océan. Il est midi 20 et nous sommes avec Martina Serra, professeure émérite à l'Université de Nantes, notre spécialiste d'histoire maritime qui a fait un très très bel article et c'est pour ça qu'on l'invite ce midi sur les phares de la région. C'est dans la dernière revue 303. Alors, ce phare de l'Armandège, parlons-en. Hein. J'ai l'impression, quand on regarde votre article, que tous les plus beaux phares se trouvent au sable.
Pour la région de Pays de Loire, alors ça serait méchant de dire ça, parce que il y en a de très beaux à l'embouchure de la Loire. Hein. Il y en a 6, rien que pour l'embouchure de la Loire, hein, dont le four du Croisic, qui est quand même pas mal.
Oui, bien sûr, bien
mais,
sûr.
Mais l'Armandège, mais... l'Armandège, il est à terre.
Alors, hein, pourquoi ce coup de cœur sur l'Armandège?
Et ben d'abord pour sa beauté. Hein. D'abord pour sa beauté, il a une forme pas très particulière. C'est un octogone, hein, 4 pans plus des 4 petits pans coupés. Il est très clair, il a ses grandes lignes de verrières sur les 4 faces qui donnent la lumière à l'intérieur. Il est très élégant, c'est un phare d'architecte. Et puis, c'est le dernier construit en France, puisque ses feux ont été allumés en 1968. C'est le dernier phare.
C'est le dernier.
Et c'est un phare d'architecte. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait sa qualité esthétique.
Parce qu'il y a de la mosaïque blanche à l'intérieur.
À l'intérieur, il y a vraiment des petits éléments de décor qui sont très raffinés. Et puis, il est sobre. Il est élégant. Il a vraiment beaucoup d'allure. Enfin, moi, je l'aime bien. Voilà. On n'est pas obligé de me suivre.
Mais
on peut en prendre un autre.
Hein, mais c'est votre coup de cœur.
C'est mon petit coup de cœur.
Et voilà, donc vous êtes notre invité, c'est vous qui avez choisi. On parlait dans notre jeu du phare d'Alexandrie tout à l'heure, qui a compté parmi les 7 merveilles du monde quand même.
Voilà, oui, à cause alors d'abord de son aspect emblématique, c'était un symbole de la richesse d'une ville aussi, hein, donc il y avait toutes sortes de raisons. Alors, on ne sait pas très bien comment il était, hein, puisqu'il s'est écroulé au XIVe siècle, mais il y a des récits de voyageurs, et puis il y a toutes les fouilles archéologiques qui ont été menées depuis 1994 par Jean-Yves Empereur, qui dans l'eau a retrouvé donc toutes les pierres du phare qui s'est écroulé à la suite d'un tremblement de terre. Et on a donc maintenant des indices sur la qualité de ce bâti, les sculptures qui le décoraient. Donc on sait à peu
on
près.
On revoit ça dans les livres d'histoire.
Voilà, maintenant on commence à comprendre comment il était fait. Et c'est lui qui a donné donc le nom générique, hein, puisqu'il était érigé sur l'île de Pharos.
On a combien de phares en France pour revenir à chez nous là?
Alors sur la totalité du littoral métropolitain, 131 phares actifs. Mm-hmm. Actifs parce qu'il y a des phares éteints.
Et alors, il y a des phares dits remarquables aussi. Ce sont lesquels?
Ce sont ceux qui réunissent toutes les beautés et tous les éléments constitutifs du phare.
Donc le phare de l'Armandège?
Alors le phare de l'Armandège est un phare remarquable, mais il y a aussi, je ne me rappelle plus lequel, il y en a un autre aussi qui est en Pays de Loire, qui est également un phare remarquable. C'est lequel?
Cherchez bien.
C'est le pilier.
Ah oui.
C'est le pilier parce que en fait c'est le phare double. Hein, c'est sur l'île il y a un phare éteint rond et un phare carré actif. Donc le vieux phare a été désaffecté, remplacé par un plus grand, plus haut. Et ce qui fait la qualité de l'ensemble, c'est déjà le fait d'avoir 2 phares, ce qui est plutôt rare sur le même espace. C'est également le fait ces 2 phares sont accompagnés de la maison du gardien, d'un certain nombre d'édifices techniques, d'un petit enclos. On pouvait y faire de l'élevage, il y a aussi une rampe d'appontement. Et c'est tout cet ensemble qui est plutôt exceptionnel. exceptionnel qui a fait qu'on l'a qualifié de remarquable. C'est un label.
D'accord. Est-ce que les phares sont visitables ou non, Martina Serra?
Alors, en Pays de Loire, hélas, non. Il n'y en a pas de visitables. Alors, sauf Kerlédé, mais il est éteint. Hein, c'est celui de Saint-Nazaire qui, à la suite du creusement du chenal, n'a plus eu d'usage. Donc, il a été rétrocédé à la ville. Et celui-là, il est visitable. Alors, selon des conditions, il faut regarder sur le site de l'écomusée de Saint-Nazaire. Tous les jeudis, je crois, et puis en saison estivale. Mais sinon, les autres phares ne sont pas visitables. Alors, évidemment, ceux en mer, ça s'explique parce qu'ils sont très difficilement accessibles et c'est même très dangereux. Et puis, ceux à terre, tout simplement pour des questions de sécurité. À l'intérieur du fût, on ne peut pas monter à un grand nombre. C'est compliqué. Il y a des normes donc importantes à respecter. Et puis, il y a la fragilité de l'optique qui se trouve en haut, qui est utile. Hein, même si les phares sont déclassés par les systèmes électroniques, ils sont encore en fonction.
À qui appartiennent-ils ?
À l'État.
À l'État. D'accord. Enfin, sauf il y a des exceptions.
Alors,
parce que j'en veux.
Très rare.
On parlait de la tour d'Arundel tout
à l'heure. Alors, la tour d'Arundel n'est plus un phare, puisque de toute façon, le phare est éteint depuis longtemps. Et le phare a été rétrocédé à la ville.
Mais la tour sert toujours d'amer.
Alors. Pour les navigateurs, bien sûr, c'est un repérage, hein, comme le clocher d'Arsan-Ré qui est peint en noir,
oui,
hein, c'est fait exprès, bien évidemment. Mais ça n'est plus un phare.
C'est plus un phare.
Sinon, tous les phares sont propriété de l'État et offrent un service gratuit. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, par exemple.
Comment voyez-vous, Martina Serra, l'avenir des phares? Parce que ce sont, on l'a dit, des monuments quand même qui sont gérés par l'État, par les phares et balises. Comment voyez-vous l'avenir des phares là,
avec un peu d'inquiétude, évidemment, ouais. Parce que maintenant, ils ne
sont plus... Est-ce qu'ils pourraient disparaître?
Tout ouvrage humain, hélas, ils sont appelés à disparaître. Enfin, surtout ceux en mer sont très difficiles à entretenir. Ils sont parfois l'objet de saccages, donc c'est un petit peu compliqué de les maintenir en l'état. Le problème de la reconversion, c'est un patrimoine, hein, et vraiment de grandes spécificités, tout à fait exceptionnel. Donc la reconversion est difficile. Hein, on peut pas. La forme fait qu'on peut pas faire n'importe quoi à l'intérieur. Ils sont protégés maintenant. Un certain nombre ont été reconnus comme étant des édifices de grande qualité. Donc, ils ont été soit inscrits, soit classés monuments historiques. Donc, ça donne de l'espoir sur l'entretien dont ils vont faire l'objet. Mais sinon, ils sont de plus en plus obsolètes. Il faudra peut-être un jour, effectivement, je suis un peu triste de le dire, mais un jour, peut-être, aurons-nous un monde sans phare.
Bon.
C'est bien possible.
On n'espère pas tout de suite, en tout cas. Hein. Merci beaucoup Martina Serra, je le rappelle, professeur émérite de l'Université de Nantes, qui est une spécialiste d'histoire maritime, qui nous a fait un très très bel article sur les phares de la région dans la dernière revue 303 que vous retrouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci de nous avoir rejoint, Martina Serra, pour toutes ces informations sur les phares de la région, et je vous souhaite une bonne journée. Merci
à vous.
Au revoir.